おかしい、おかしい。
Il est 17h15 à Kinshasa, dialogue entre les Congolais présenté par Jean-Claude Combacamon.
Bonsoir, quelle est la situation des droits de l'homme en RD Congo? Comment mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des violations des droits de l'homme? Comment venir en aide aux victimes des violations des droits de l'homme? Voilà des questions qui seront au centre de cette émission Dialogue entre Congolais, qui reçoit la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour, seule invitée de cette émission. Elle est dans ce studio. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, vous êtes en RDC depuis dimanche dernier. Vous placez votre visite sous le signe de la place primordiale des droits de la personne, la lutte contre l'impunité, la mise en place des structures solides de protection des libertés fondamentales, le tout dans les efforts de réconciliation et reconstruction du pays. Et vous avez déjà rencontré des dirigeants congolais, à savoir le président de la République, Joseph Kabila. Mais avant d'entrer dans le vif, voici quelques réactions des auditeurs autour de ce sujet. Issa, un auditeur de Haro en province orientale, veut savoir pourquoi la communauté internationale n'appuie pas la mise à exécution du mandat d'arrêt international lancé contre Laurent Kunda par le gouvernement pour des violations de droits de l'homme à l'est du pays et d'autres cas d'impunité dont jouissent d'autres chefs de milice tels que Bosco, Jules Moukeboussi et Peter Karim. Bien fait, Ndaïtir, depuis Ouvira au sud Kivu, veut connaître les sanctions à prendre à l'endroit de ceux qui commettent des violations de droits de l'homme et qui circulent librement dans les cités. Un autre, Issa Ibanda de Kinshasa, se demande pourquoi les autorités congolaises viennent de libérer les prisonniers seulement au moment où Mme Louise Arbour est arrivée en RDC. Nous y reviendrons au cours de cette émission avec vous, Mme Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Nous ouvrons cette émission par la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Selon un rapport du second semestre de l'an dernier, donc 2006, du Bureau intégré des Nations Unies pour les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo reste préoccupante. Détail avec Claude Kanza.
Sans pointer du doigt, l'armée nationale, dont la garde républicaine, la division de protection présidentielle DPP de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, la police nationale congolaise, l'agence nationale des renseignements ANR, mais aussi les groupes armés hutu-rwandais à l'est du pays, ainsi que les groupes armés congolais présents à l'est et au sud du pays. Ce rapport cite des exécutions sommaires, des tueries massives des civils par des éléments de l'armée nationale, notamment en Ituri dans la province orientale, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires massives, des traitements et des actes de torture, ainsi que des violences sexuelles. Pour ce qui est justement des violences sexuelles, ce rapport des Nations Unies précise qu'elles restent généralisées à travers le pays. Les cas les plus graves provenant de l'Équateur et du Nord Kivu. Les auteurs ont été traduits en justice dans un petit nombre de cas seulement, et s'ils sont condamnés, beaucoup d'entre eux s'évadent. Toujours d'après ce rapport des Nations Unies, le nombre des cas impliquant les forces armées de la RDC a légèrement baissé d'environ 10%, passant de 53% au premier semestre de l'an 2006 à 40% au second semestre de la même année, tandis que les violations des droits de l'homme commises par des éléments de la police nationale ont augmenté de 15% au deuxième semestre 2006. Mais les civils ne sont pas épargnés. D'après le Fonds des Nations Unies pour la Population, FUNAP, par rapport à 2005, le nombre des personnes civiles ayant commis des violences sexuelles a augmenté en 2006. En 2005, sur l'ensemble des viols, 23% ont été commis par des civils. Mais le rapport cite aussi des violations graves des droits de l'homme commises par des militaires hutu-rwandais à l'est de la RDC, notamment des cas d'enlèvement, des meurtres et des viols.
Madame Louise Arbour, je rappelle que vous êtes la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Que pensez-vous de ce tableau sur les droits de l'homme à RDC?
Je pense que la première chose qu'on doit faire remarquer, c'est l'importance justement de dire la vérité. C'est l'importance de l'existence déjà, de cette capacité d'observation et d'analyse et de dénonciation des exactions qui ont lieu sur le terrain. Il ne faut pas minimiser l'importance, au moins, de documenter, de dire la vérité. Maintenant, ça dépeint un tableau qui est très inquiétant, et je pense que je ne devrais pas dire la culture de l'impunité, parce que je pense que c'est pas ancré dans une culture, c'est une tradition, c'est une attente, en fait, à ce que l'impunité continue d'être implantée. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. On ne peut pas continuer à brosser un tableau de cette nature et que les gestes des autorités pour y faire face soient aussi modestes que ce qu'on a vu sur place. Dans quelques cas, on a eu des réactions appropriées de la part des autorités, mais des déficiences et déficits au niveau du milieu carcéral, donc avec des évasions. Alors, je pense que le travail à faire est monumental.
Le travail est monumental et vous dites, vous en avez parlé avec les autorités congolaises.
Oui, tout à fait. Et leur réponse est encourageante dans la mesure où on ne sent pas, chez la plupart de mes interlocuteurs, commençant avec le président de la République, on ne sent pas l'espèce de rejet même de la réalité. C'est important de faire face à la réalité. On sent une prise de conscience que la réalité sur le terrain demande qu'on s'y adresse de façon très sérieuse. C'est plus inquiétant quand on est dans des environnements de négativisme ou de réjectionnisme où les autorités nient ce qui est flagrant pour tout le monde. Alors, quand RDC, moi, je pense que ce qui est encourageant, c'est la volonté de faire face à la réalité, bien qu'elle soit très sombre.
Est-ce que le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme va se contenter juste de cette prise de conscience des autorités congolaises?
Le Haut Commissariat ne peut, en fait, travailler que dans l'encadrement de son mandat, et certainement ce mandat de documentation, d'observation, de documentation, de rapport public est très clair, et en fait d'accompagnement des autorités nationales. Mais le Haut Commissariat et la communauté internationale ne peuvent pas se substituer aux instances nationales qui vont devoir prendre leurs responsabilités.
Voilà, nous prenons une question pour vous, Madame la Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, et c'est une question qui vient d'un auditeur de Goma.
Je suis Francis Bifos depuis Goma, au Nord Kivu. Je voulais demander à Madame Harbour comment son institution compte-t-elle faire appliquer les droits de l'homme sur le territoire congolais.
Comment votre institution compte-t-elle faire appliquer les droits de l'homme en République démocratique du Congo?
Ben, je pense qu'on doit le faire. On n'a pas de mandat pour l'appliquer nous-mêmes directement. Il faut d'abord et avant tout, je pense, accompagner les acteurs de la société civile, les ONG, les détenteurs de droits. Il faut les accompagner pour leur permettre d'exiger que leurs droits soient respectés. Il faut ensuite interpeller les autorités gouvernementales pour les obliger à prendre leurs responsabilités et ne pas se contenter d'accepter chaque fois que le manque de moyens soit l'excuse à une espèce de paralysie permanente de la réaction des autorités gouvernementales. Alors, on va essayer de faire appliquer les droits humains justement en interpellant ceux qui sont en fait des détenteurs d'obligations, c'est-à-dire les autorités gouvernementales, en les interpellant publiquement, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour essayer soit de les encourager ou de les pousser en fait à prendre les responsabilités qui leur échoient.
Vous pensez que vous arrive de les pousser?
Vous savez, si on avait tout le succès qu'on désire, on ne serait pas dans la situation où on est présentement. Dans certains cas, on a des partenaires, en fait, et il faut dire la vérité, on a des partenaires qui ont beaucoup de bonne volonté, qui ont des moyens très limités. Dans d'autres cas, le manque de moyens est un prétexte qui convient très bien à ceux qui n'ont pas également de volonté politique de faire avancer les choses. Et donc, je pense qu'il faut d'abord faire un très bon diagnostic. Est-ce que nos interlocuteurs sont de bonne foi ou non? Et s'ils sont pas de bonne foi, il faut ou bien les contourner ou les dénoncer. Et s'ils sont de bonne foi, là, il faut les accompagner.
Merci, madame. On poursuit cette émission. À propos des auteurs de ces violations des droits de l'homme, le dernier rapport évoqué par Claude Kianza pointe du doigt les militaires, y compris la garde présidentielle, devenue garde républicaine, la police nationale et ses services spéciaux, notamment à Trin-Mazières, ici à Kinshasa, les groupes armés et l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, accusés dans son rapport de refuser la visite du bureau des Nations Unies aux différents cachots de certains services de sécurité congolais. Que dites-vous des auteurs de ces violations de droits de l'homme, puisque selon ce rapport des Nations Unies, ce sont surtout les forces de l'ordre, c'est-à-dire des personnes censées protéger la population, Madame Louise Harbour?
Ouais. Ben, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. c'est de voir à quel point les forces de l'ordre, les différents corps publics que vous avez énoncés, à quel point ils sont impliqués très souvent dans des violations très graves. Maintenant, quelle est la cause de cet état de choses? Dans une large mesure, quand les violations ne sont pas des plus sérieuses, ça peut être attribuable au fait qu'ils sont mal ou souvent pas du tout rémunérés, et donc cet abus de pouvoir, ça vient en fait d'une espèce de besoin alors les pillages ou les vols, donc des infractions sérieuses, mais qui peuvent être attribuées à des manques de moyens. Et je pense qu'encore une fois, la source, la racine profonde de l'état de choses, c'est encore une fois cette impunité qui prévaut. C'est que quand il n'y a pas de conséquences à des exactions, même très sérieuses, des violences sexuelles, des exécutions arbitraires, des actes de torture, quand il n'y a aucun prix à payer, il n'y a aucune conséquence, on voit se multiplier ce genre d'action. Alors, je pense qu'il va y avoir un travail important à faire au niveau des forces de l'ordre.
Oui, mais parce que vous dites que vous allez vous limiter à interpeller, quand est-ce que vous avez interpellé, par exemple, les autorités congolaises pour améliorer les conditions des militaires et des forces de l'ordre?
Écoutez, d'abord, ces rapports, dans une large mesure, les interpellent publiquement. Ils ne peuvent pas ignorer la réalité qu'on dévoile, qu'on documente avec les statistiques qui démontrent, dans certains cas, une croissance, en fait, de ce qui est une criminalité dans les forces de l'ordre. Alors ça, c'est une interpellation publique qui va forcer, je pense, les autorités à se responsabiliser. Maintenant, et je pense que c'est la meilleure forme d'interpellation. Il faut le faire de façon très publique, très transparente. Et maintenant, il faut leur demander à eux, il faut demander aux personnes qui sont responsables comment ils expliquent, eux, les dirigeants, un état de choses, tel qu'on le décrit.
Voilà, merci. À propos de la situation des droits de l'homme en RDC, les ONG de droits de l'homme, en l'occurrence la Voix de Sans Voix, pensent que la situation des droits de l'homme en RDC n'a pas évolué depuis la transition jusqu'à ce nouveau gouvernement. Le président de la VSV dit attendre des preuves de changement de la part du nouveau gouvernement. Je vous prie de suivre Floribert Chebea. Il est président de cette ONG, la Voix de Sans Voix. Il est au téléphone de Willy Akonda.
Il n'y a pas encore de progrès en ce qui concerne l'état des droits humains en République démocratique du Congo. Mais pendant la période de transition de 3 ans, les droits humains n'ont pas été au centre de l'agenda des membres du gouvernement. Et cette situation-là malheureuse, violation des droits humains, que vient d'hériter le gouvernement nouvellement élu. Il y a une volonté qui a été exprimée par les membres du gouvernement de travailler pour les droits humains. Mais la communauté nationale et internationale défenseurs des droits humains attendent des signaux concrets et positifs. Il y a la question de la que l'impunité reste encore entière. Il y a eu des cas d'assassinat, des attaques contre les journalistes, des procès injustes et inéquitables. Il y a des problèmes signifiants, n'est-ce pas, du salaire payé aux gens qui ne permettent pas de couvrir les besoins plutôt du mouvement de revendication des syndicats qui bougent, qui sont malheureusement réprimés par la police ou les services de sécurité au lieu d'entrer en phase de négociation avec le gouvernement. Donc, ça pose un problème de partenariat.
Vous avez une réaction par rapport à ça?
Oui. Je m'incline devant une description de la réalité qui vient d'un défenseur des droits de l'homme bien ancré sur le terrain depuis très longtemps. Je pense que son évaluation n'est pas contestable. Maintenant, quelles sont les explications? Je pense qu'au niveau de la communauté internationale, il y a eu une volonté d'accompagner le processus dit démocratique, c'est-à-dire le processus des élections, qui a peut-être appauvri la contribution qui aurait pu être faite dans les autres domaines, y compris au niveau des droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est un danger qu'on doit se prémunir contre, une perception de la démocratie qui est très appauvrie, c'est-à-dire de percevoir la démocratie, de la réduire à la mécanique électorale. La mécanique électorale, c'est une composante importante de la démocratie, mais il y a beaucoup plus que ça. Une démocratie, ça doit reposer sur des institutions saines qui permettent à la population de s'exprimer, de faire des vrais choix, d'avoir la liberté d'assembler.
Là, vous pensez à quoi?
Ben, je pense à la presse, je pense à une vie intellectuelle florissante, je pense justement à la liberté d'expression, d'allégeance politique impopulaire. Alors il faut développer, pour créer un espace pour la société civile et se débarrasser des réflexes répressifs. dont les dirigeants font souvent preuve quand ils n'ont pas l'habitude d'une saine démocratie.
Nous rappelons à ceux qui viennent de se joindre à nous, Dialogue entre Congolais reçoit dans ce studio B de Radio Okapi la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour, de nationalité canadienne. Trois questions au menu de cette émission. Quelle est la situation des droits de l'homme à RDC? Comment mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des violations des droits de l'homme? Comment venir en aide aux victimes des violations de droits de l'homme?
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-899-222.
Nous poursuivons cette émission avec le volet lutte contre l'impunité. Madame la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, vous mettez un accent particulier sur cet aspect dans le cadre de cette visite. Je crois vous le confirmez, Madame Louise Arbour.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est probablement l'item le plus important de mes conversations, de mon dialogue avec les autorités.
Alors, nous prenons des auditeurs. Une question sur l'impunité, elle vient de Issa, un auditeur de Harou, en province orientale, où vous allez vous rendre dans quelques jours. Il veut savoir pourquoi la communauté internationale n'appuie pas la mise à exécution du mandat d'arrêt international lancé contre le général Laurent Nkunda pour des violations de droits de l'homme à l'est du pays, et d'autres cas d'impunité dont jouissent d'autres chefs de milice, tels que Bosco Tangada, Jules Moutéboussi, Peter Karim, qui lui est en Ituri et est élevé au rang de colonel de l'armée nationale. Un autre auditeur ajoute sur la liste Gédéon et Chinja Chinja dans le Nord Katanga. Que Mme Louise Arbour nous éclaire là-dessus, c'est l'auditeur Issa qui le dit, surtout que la communauté internationale ne peut pas encourager l'impunité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre là-dessus, Mme Louise Arbour?
Je pense que la communauté internationale se doit, comme les autorités nationales, de toujours agir dans un contexte d'état de droit et donc d'être bien circonscrite dans ses actions par son mandat. Alors, on a d'une part le mandat de la MONUC qui doit s'acquitter des tâches qui lui ont été dévolues dans, justement, les limites de son mandat. Et je pense que c'est au représentant du secrétaire général de porter une appréciation sur les moyens qui sont mis à sa disposition et les façons d'exécuter son mandat qu'il juge approprié. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi le volet de la Cour pénale internationale, qui est une autre forme d'intervention de la communauté internationale. Bien sûr, après la saisine, en fait, de la Cour par la volonté souveraine de la République démocratique du Congo. La Cour, elle aussi, a des contraintes. Sa compétence ne commence dans le temps qu'à partir de 2003, en fait, je pense, en RDC. Et donc, elle aussi, elle a certaines contraintes, des contraintes de moyens. Mais tous les cas qui ont été mentionnés, je pense que ce sont des cas qui doivent être débattus et où des initiatives, ou bien nationales, ou internationales, ou conjointes, devront être mises sur pied pour s'y adresser.
Là, c'est comme si vous jetiez la balle dans les mains du patron de la MONUC.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est son appréciation, en fait, qui doit être engagée. Quant aux genres d'initiatives qu'il peut prendre, lui et le commandant des forces de la MONUC qui sont sur le terrain pour savoir dans quelle mesure ils peuvent prendre des initiatives de soutien, soit à l'exécution de mandats nationaux ou internationaux. Alors, ils doivent tout d'abord apprécier les limites juridiques de leur action et les possibilités opérationnelles sur le terrain. C'est une appréciation qui est la leur, bien sûr.
Et là, vous ne faites rien, vous ne dites rien là-dessus.
Je ne vais pas leur dire comment faire leur métier. Ils savent très bien quelle est ma position. Si un mandat d'arrêt qui est exécutoire, soit un mandat de la CPI, comme c'est le cas, par exemple, dans le cas du...
Laurent Nkunda.
Je ne sais pas s'il y a un mandat de la CPI.
Non, ça, c'est
un mandat national.
Ça, c'est international, mais lancé par le gouvernement.
Oui, ça, c'est différent. Ouais. Alors, dépendant de la nature du mandat, s'il y a un mandat... Les mandats d'arrêt, qu'ils soient des mandats nationaux, émis par les autorités nationales ou internationales, à mon avis, ils sont exécutoires. Maintenant, qui a les moyens de les exécuter et dans quelle mesure des opérations d'arrestation doivent être lancées? Ça, je pense que l'appréciation de l'opportunité d'agir, vraiment, on doit se référer à ceux qui ont à la fois le mandat et la capacité de le faire et apprécier leur jugement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les interpeller là, pour leur faire savoir qu'on s'attend d'eux à une... Oui, un engagement sérieux sur la question.
On a compris. Toujours au sujet de l'impunité, des efforts ont été entrepris dans certains cas. On peut citer le cas de Songomboyo en province de l'Équateur. Plus d'une centaine de personnes habitant le village Songomboyo situé dans le territoire de Bongandanga ont été victimes des actes de viol et de pillage par certains éléments de l'ex-9e bataillon de l'armée de libération du Congo. Ces événements malheureux ont été commis du 21 au 22 décembre 2003. Le tribunal militaire garnison de Mbandaka avait ouvert un procès contre les auteurs de ces actes. Le verdict a été rendu en 2006. Juste à ce jour, la plupart des accusés ont disparu et les victimes ne sont toujours pas dédommagées. C'est ce que nous dit Guy Roger Nyampala dans cet élément.
D'après les informations recueillies par Radio Okapi à Songomboyo, au total 200 femmes ont été violées et plusieurs commerces pillés entre le 21 et le 22 décembre 2003. Trois ans plus tard, c'est-à-dire en 2006, un procès a été ouvert par le tribunal militaire de garnison de Mbandaka contre 78 militaires de l'ex-mouvement armé de libération du Congo. Après plusieurs enquêtes, 78 bourreaux ont été identifiés par les femmes violées. Le 12 avril 2006, le tribunal militaire garnison de Mbandaka a rendu son verdict après procès en condamnant à perpétuité et radiation des corps des FARDC 4 des 12 éléments de l'ex-armée de libération du Congo qu'il a pu arrêter. 8 d'entre eux ont été acquittés. Les 66 autres auteurs de ces actes se sont enfuis. À l'issue de ce procès, l'État congolais est également condamné à payer aux victimes des viols, des dommages et intérêts à un montant de l'ordre de 5 000 à 10 000 dollars américains et une somme équivalente à 500 dollars américains aux victimes de pillage. Juste à ce jour, aucune de ces victimes n'a été dédommagée, selon Maître Lambert Lissika du barreau de Mbandaka, un des avocats des victimes. Ce dernier a affirmé à Radio Okapi que les démarches sont initiées pour que l'État congolais s'acquitte de ses obligations.
Oui, Madame Louise Arbour, vous êtes la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Quelle leçon vous tirez d'une telle illustration?
Je pense que c'est extrêmement décevant de la part d'un gouvernement qui veut s'engager vers la construction d'un véritable état de droit, qu'il ne se plie pas immédiatement aux ordonnances des tribunaux. Alors, si de fait, il y a eu une ordonnance contraignant le gouvernement à dédommager, à payer des dommages intérêts à des victimes, à mon avis, le gouvernement devrait s'acquitter immédiatement de cette obligation. Vous savez, ça relève encore une fois de l'importance d'avoir dans une démocratie un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire qui se respectent mutuellement. Alors, pour un gouvernement, de ne pas acquiescer immédiatement une ordonnance judiciaire, à mon avis, c'est un acte de défaut, là, de respect de la fonction publique qui est très sérieux. Alors, si la réalité était bien décrite là, dans cette affaire, je ferai sûrement appel aux autorités gouvernementales à immédiatement s'acquitter de cette obligation. Maintenant, quant à la gestion du procès pénal, je ne peux pas commenter sur la légitimité des acquittements, des condamnations ou de la tenue du procès. Déjà, on doit se féliciter qu'un procès de cette nature ait eu lieu et qu'on ait la possibilité, dans un pays comme la RDC, de commenter publiquement sur la qualité du processus judiciaire. Ça, je pense que déjà, c'est un geste important.
Mais là, on rappelle que les Nations Unies s'étaient investies pour mettre en place une chambre foraine, mais comment est-ce que les Nations Unies peuvent observer comme ça 66 auteurs qui fouillent, pas de dédommagement?
Ouais. Comme je vous dis, le fait que le processus ait eu lieu, c'est la partie positive. La partie qui est très décevante, c'est qu'après cet effort monumental, et surtout après avoir permis aux victimes d'avoir cette fois un espoir de justice, d'avoir si peu de résultats à leur livrer, ça c'est moins encourageant. Mais je pense qu'on doit espérer qu'avec des efforts de la même nature, mais la communauté internationale ne pourra pas accompagner tout les processus judiciaires de cette nature chaque fois. Donc, il va falloir se donner une capacité nationale.
Voilà. Toujours de la part des auditeurs, encore une fois, Kassongo Kat Namouino Katanga demande s'il y a réellement une volonté politique nationale et internationale pour mettre fin à l'impunité. Madame Louise Arbour, vous pensez qu'il y a cette volonté politique nationale et internationale pour mettre fin à l'impunité?
Je pense que ça prend beaucoup d'efforts. C'est pas une volonté qui se manifeste automatiquement, ni au niveau national, ni au niveau international. On a toujours des priorités quant au processus de paix. On prétend toujours que la paix doit venir avant la justice. Donc, je pense qu'il faut les défenseurs des droits de l'homme, le Haut Commissariat, pour plaider en faveur de la lutte contre l'impunité. Et je dois vous dire qu'au cours de ma visite, j'ai eu des signes assez encourageants qui vont nous permettre, je pense, de travailler dans cette direction. Et là, on va pouvoir tester, dans une certaine mesure, le véritable engagement politique des autorités.
Okay. Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-8-999-222.
La dernière partie de cette émission est consacrée à la prise en charge des victimes des violations de droits de l'homme. Comment sont prises en charge ces victimes? En Nord Kivu, précisément à Goma, certaines victimes ont été prises en charge médicalement, mais la guérison se fait encore attendre. C'est le cas de cette femme qui dit avoir été violée par des combattants hutu-rwandais. Je vous propose son témoignage au micro de Radio Okapi.
Je vais chez nous à Katoy. Quand la guerre a commencé, nous avons fui les villages, nos maisons ont été brûlées, les internés qui ont été domiciliés dans notre pays ont pillé nos biens, ont brûlé nos maisons et nous ont violés. Toute ma famille a péri, mon père et ma mère ont été tués, mes enfants aussi. Je suis restée avec deux enfants. Là où je fuis, j'ai été violée par quatre internés. Par la grâce de Dieu, j'ai été emmenée à Goma dans ce centre hospitalier Jésus-Homme, où je suis internée et soignée. Mais malgré les soins, je suis toujours malade. Les médecins s'efforcent toujours, mais malgré tous leurs efforts, ma guérison n'est pas totale. Ce que je dirais, c'est que notre armée puisse combattre ces hommes en uniforme qui sont dans nos forêts, parce que depuis qu'ils sont là, ils nous ont violés et ils continuent toujours à violer d'autres femmes. Vraiment, je renoncerai l'armée si ces hommes en uniforme sont combattus et chassés de la forêt.
Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame Louise Arbour?
Je pense que c'est absolument tragique de voir des personnes qui, de toute évidence, sont complètement innocentes, être victimisées de cette façon. Vous savez, la guerre, ça cause beaucoup de dommages, mais de façon traditionnelle, on a toujours perçu la guerre comme étant un combat loyal, mais entre combattants. Et ce qu'on voit de plus en plus, surtout quand les femmes sont ciblées et sont violentées de cette façon, c'est qu'on voit un dérapage inconcevable, en fait, des luttes armées où on ne cible plus, où les combattants ne se ciblent plus entre eux. Ils sont trop lâches, d'ailleurs, pour s'attaquer à des gens de leur stature, des gens armés. Alors, ils s'attaquent à des populations civiles qu'ils terrorisent, et je pense que la victimisation des femmes, particulièrement par justement cette violence sexuelle, qui est un acte, non seulement un acte de violence, mais de mépris profond, je pense que premièrement, ça nous révolte. Deuxièmement, ça nous inspire une solidarité, une sympathie très profonde envers les victimes. Et ça exige que les auteurs de ces infractions soient traduits en justice.
Oui. Vous allez vous rendre plutôt à l'est du pays, hein, notamment dans cette région où il y a des femmes qui ont été violées, mais est-ce que la prise en charge médicale, matérielle, est-ce que ça fait partie aussi de votre agenda?
Tout à fait. Je pense que c'est un volet très, très important. Et pendant très longtemps, on s'est préoccupé de façon indue, je pense, on a ciblé l'utilisation du droit pénal, en fait, pour poursuivre les auteurs des infractions, mais on a complètement négligé l'accompagnement des victimes. Et vous savez, tout le volet des droits humains, c'est un geste, fondamentalement un geste de solidarité envers les victimes pour leur, en fait, essayer de leur remettre leur dignité humaine et les accompagner. Et je pense que ce travail psychosocial, travail médical qui accompagne les victimes est probablement une des composantes les plus importantes pour reconstituer une société dans laquelle elles pourront trouver leur place.
Et concrètement, vous allez faire quoi?
Je pense que je dois participer au lancement d'une initiative. Je ne suis pas très certaine des détails, mais je pense qu'à Goma, vendredi, je vais participer au lancement d'une initiative financée par le gouvernement canadien qui fait un certain suivi à un autre projet. Malheureusement, j'ai pas les détails devant moi, mais qui est très, très bien ciblé sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.
Donc, vous promettez quand même du concret.
Ah, tout à fait. Je vais certainement appuyer cette initiative et je pense que c'est un projet d'une très grande envergure et vraiment axé sur la violence sexuelle.
En plus de la prise en charge matérielle et médicale des victimes des violations de droits de l'homme qui posent encore problème, vous allez le voir, Madame Lisa Arbour, la mentalité locale constitue aussi un problème pour ces victimes, souvent rejetées de la société. Cela arrive surtout aux victimes de violences sexuelles lorsqu'elles se font connaître, suivant plutôt cet autre témoignage d'une victime de Bukavu.
Moi, je suis venue de Luchébéré. Quel âge as-tu? J'ai 70 ans. On a tué mon mari, on a tué mon fils. Je m'ai caché dans les buissons non loin de la maison. Ils m'ont repéré, quelques-uns m'ont rejoint. Oui, ils ont ravi les quatre vaches chez les huit chèvres que je protégeais. Quand je voulais regarder ce qui s'est passé, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont copieusement tabassé, ils m'ont violé sans pitié. Finalement, je leur ai demandé de me tuer tout simplement. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont pris les vêtements plus deux chevaux et un porc. Ils m'ont amené dehors. Là, j'ai rencontré d'autres femmes qu'ils ont pris dans d'autres maisons. Depuis le village de Richaco, nous avons fait deux jours de marche pour atteindre leur forêt. Nous étions cinq femmes et eux, ils étaient au nombre de 10 hommes. Ils nous ont frappés sérieusement sur tout. Ils nous écrasaient la poitrine. Oui, ils nous ont habités, oh mon Dieu, comme des animaux. C'est pourquoi nos maris nous ont fui. Ils nous accusent d'avoir contracté beaucoup de maladies auprès de ces gens-là.
Madame la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez dire et faire par rapport à ces cas qui n'encouragent pas non plus les victimes à dénoncer les violations dont elles sont victimes?
Je pense que la stigmatisation, c'est un des obstacles les plus sérieux à notre capacité collective de rejoindre et d'accompagner les victimes. Et la première chose qu'on doit dire, c'est célébrer le courage des femmes qui parlent. Des femmes qui... et je pense qu'il faut se rendre compte du courage véritable dont elles font preuve en dénonçant ce qui leur est arrivé. Mais c'est absolument essentiel que ces femmes courageuses disent la vérité pour qu'on connaisse aussi l'ampleur de la lâcheté de ceux qui les ont attaqués. Mais le problème de la stigmatisation, c'est le même problème qu'on connaît, par exemple, au niveau des maladies. Alors, il y a tout aussi une espèce de culture de la distance envers les victimes et de la double victimisation, c'est-à-dire de les rejeter par la suite plutôt que d'avoir des gestes de compassion et de solidarité envers elles. Mais ça fait partie aussi beaucoup, je pense, d'une culture de la place de la femme dans la société congolaise. Alors, je pense que tout un projet de réforme pour donner à la femme une place appropriée, une place à sa dignité humaine dans la société congolaise, devrait nous aider, je pense aussi, à nous rallier à elles lorsqu'elles sont aussi l'objet de violences sexuelles.
Ah, c'est un souhait ou c'est une initiative que vous comptez prendre?
Ben écoutez, moi je ne peux pas prendre beaucoup d'initiatives, mais je ne peux que constater et dire publiquement à quel point c'est décevant, par exemple, de voir qu'il y a si peu de femmes, malgré la parité qui est garantie par la Constitution, de voir si peu de femmes dans la vie publique, si peu de femmes dans les institutions gouvernementales, si peu de femmes justement occuper la place qui leur revient de droit dans la société. Et de la même façon, de voir la lenteur des réformes législatives, code de la famille et tout ça, pour donner aux femmes aussi une place dans la vie économique qui va leur donner le genre d'autonomie pour qu'elles puissent se prendre en main. Alors tout ça, je pense, c'est relié à un projet de société qu'on doit encourager. Moi, il n'y a pas beaucoup d'initiatives personnelles que je peux prendre, mais je suis encore convaincue que les ONG, particulièrement celles qui travaillent sur les droits des femmes, vont essayer de faire avancer ces idées-là le plus tôt possible.
Et que vous seriez prêt à les aider, à aider
les ONG? Tout à fait. Je pense qu'on travaille déjà pour essayer de les accompagner dans la mesure de nos moyens, mais l'initiative va venir et vient déjà, je pense, de la volonté de la population congolaise, des femmes du Congo, d'occuper la place qui leur revient de droit.
Et pour finir, la justice congolaise éprouve des difficultés pour s'assumer en toute indépendance face à ce genre de situation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Mouillard, président des Taupes Noires, une ONG de droits de l'homme. Cet activiste de défense de droits de l'homme évoque les événements survenus à Kinshasa du 22 au 23 mars 2007 et qui, d'après lui, est un cas de crime contre l'humanité. Jusqu'à ce jour, dit-il, on ne sent pas la volonté de la justice congolaise à dégager les responsabilités des militaires impliqués dans cette affaire. Il a été joint au téléphone par Anselme Simon Béré.
Notre justice a encore beaucoup de difficultés pour s'assumer en toute indépendance. Vous vous souviendrez, le cas le plus frappant, ce sont les événements que nous avons connus du 22 au 24 mars. Selon nos analyses, ce qui s'est passé à Kinshasa peut être qualifié en droit de crime contre l'humanité. Mais depuis lors, on ne sent pas que la justice cherche à dégager la responsabilité des militaires, par exemple, qui y ont mené les opérations. Par contre, la justice, on dirait instrumentalisée, cherche à régler d'abord le problème politique. C'est-à-dire que le projet tient encore en otage notre justice. En Ituri, comme vous le savez, c'est là où il y a eu beaucoup de violations massives des droits humains. Mais il se fait que la justice n'a pas non seulement des moyens logistiques, mais aussi n'a pas toute indépendance pour agir. Vous savez que là, à l'Est, il y a tout un territoire qui est sous le joug des chefs de guerre. Et ce sont ces chefs de guerre-là qui, aujourd'hui, sont intégrés dans l'armée régulière avec des grades. Et devant cette situation, la justice est bloquée.
Un autre contre-cloche, tout en reconnaissant la qualité des personnes censées dire le droit, M. Amigo Gonde, autre défenseur des droits de l'homme, président de l'AZADO, déplore l'interférence de l'exécutif dans les affaires judiciaires, ce qui, à ses yeux, affaiblit le pouvoir de l'appareil judiciaire en RD Congo. Là, je pense, Madame Luzarbourg, vous êtes mieux placée parce que vous êtes, je crois, docteur en droit et vous avez été longtemps procureur. Je crois, de la République dans votre pays ou à la Cour suprême, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Écoutez, moi je pense que si la justice n'arrive pas, ne peut pas ou ne veut pas prendre sa place, occuper la place qui lui revient dans la gouvernance, soit par collusion avec l'exécutif, soit par manque de compétences, manque de moyens, manque de courage. Alors si la justice ne veut pas ou ne peut pas occuper sa place, les Congolais auraient peut-être intérêt à se tourner vers le pouvoir législatif. Ils ont maintenant des élus auxquels ils doivent s'adresser, ils peuvent s'adresser, les interpeller, demander la tenue, par exemple, d'enquêtes parlementaires qui devraient donner lieu à des rapports publics. Alors, je pense que quand nos institutions ne fonctionnent pas bien, on doit les interpeller. Et si c'est sans résultat, on peut essayer de passer à côté. Et je pense que le processus démocratique qui a donné lieu à une composante importante maintenant du pouvoir législatif, c'est peut-être une façon de pallier aux défaillances de la justice qui peut-être, elle, par la suite, voudra reprendre sa propre place comme organe de gouvernance. Alors moi, j'encouragerais beaucoup les acteurs de la société civile à se tourner vers l'Assemblée nationale, demander que des commissions parlementaires mettent sur pied des commissions d'enquête, des enquêtes publiques.
On en a connu beaucoup, mais sans résultat.
Il ne faut pas abandonner. Là, on a maintenant quand même eu un processus démocratique qui a été célébré, en fait, qui a donné des résultats là, sur lesquels on devrait capitaliser. Alors, il ne faut pas désespérer d'interpeller la justice et d'essayer de la faire fonctionner. Mais si on est un peu impatient, entre-temps, je pense qu'il faut aller essayer de trouver des échappatoires et peut-être interpeller les élus, leur demander, eux, de prendre leurs responsabilités et de rendre public les résultats de leur capacité d'enquête.
Oui. Bon, toujours en rapport avec l'indépendance de la justice, vous avez suivi ces activistes des droits de l'homme. Il y a la loi portant statut des magistrats qui, elle, a déjà été adoptée, même promulguée par le président de la République. Mais il reste la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature qui est très importante pour l'indépendance des magistrats. Et est-ce que vous pensez, vous, en tant que haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est-ce que vous ne pensez pas pousser un tout petit peu pour que cette loi soit aussi adoptée?
Oui, et je l'ai fait dans tous mes entretiens avec le président de l'Assemblée nationale et ses collègues des commissions parlementaires que j'ai rencontrés au tout début de ma visite. Je l'ai fait auprès du ministre de la Justice, du ministre des Droits humains, du ministre des Affaires étrangères. J'ai dit à tout le monde, il faut absolument que l'agenda législatif sur le volet de la justice avance. Donc, Conseil supérieur de la magistrature, création du Conseil d'État, création de toutes les lois organiques prévues par la Constitution. Mais je dois vous dire qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas s'imaginer que les réformes institutionnelles, les réformes de structure vont de soi porter des fruits. D'ailleurs, c'est très dangereux de ne se préoccuper que d'un processus institutionnel. Moi, je pense que les magistrats aussi doivent s'accaparer leur indépendance.
C'est-à-dire?
Ils ont une voix professionnelle, ils doivent faire preuve dans leurs activités quotidiennes d'intégrité, de professionnalisme, ils doivent faire preuve de courage, ils doivent eux aussi prendre la parole, ils doivent poser des actes de justice. Alors, toujours penser qu'on manque de moyens, qu'on est mal encadré.
Et c'est le cas.
Oui, mais il faut aussi, je pense, il y a les institutions et les personnes. Et vous savez, moi, j'ai toujours été convaincue qu'il n'y a rien qui se passe sans les personnes. Il n'y a rien qui dure sans les institutions. Mais il faut que les deux volets fonctionnent en même temps. Donc, il faut bien s'encadrer sur une base institutionnelle, mais il ne faut pas non plus rêver, attendre qu'on ait passé toute une série de lois qui ne vont rien donner dans la réalité si on n'a pas des juges, des magistrats, des avocats courageux qui disent des choses, qui posent des gestes, qui dénoncent et qui parlent la voix de la justice, même avec leurs moyens limités.
Voilà. On va prendre les dernières opinions de nos auditeurs. Il y a Justin Diassilois, président du Club des auditeurs du Bas-Congo. Il pose cette question à vous, Madame Louise Arbour. Quel était l'apport en rapport avec le thème développé le 8 mars de cette année à l'occasion de la Journée internationale de la femme, en fait l'apport de votre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme? En quelques secondes, vous pouvez répondre. Quel était votre apport justement sur la Journée internationale de la femme avec le thème de cette journée cette année?
Ouais, je pensais tout de suite au thème de la pauvreté qui a été en fait le thème dominant des droits de l'homme cette année. Et pour la Journée internationale de la femme, je pense qu'on a préconisé encore une fois l'importance de s'adresser à tous les droits de façon intégrée, mais en particulier à la question de la violence faite aux femmes. Et je pense que tant qu'on n'aura pas de façon globale replacé la femme dans la société, on ne fera pas beaucoup de progrès sur le combat, la lutte contre la violence.
Voilà. Une autre opinion, un auditeur de Kinshasa, il veut connaître la stratégie mise en place au-delà des mécanismes pour la protection des droits civils et politiques afin de donner corps et réalité aux droits économiques et sociaux en Afrique. Mais je ne sais pas si vous avez une réponse.
Oui, mais c'est un domaine qui a été négligé depuis très longtemps. C'est vrai que c'est le modèle occidental qui a une préoccupation indue envers les droits civils et politiques et qui a toujours beaucoup négligé les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, je pense que la stratégie, c'est de dire, encore une fois, de préconiser qu'il faut s'attarder au droit à l'éducation, au droit à la nourriture, au droit au logement, au droit à la santé, de la même façon qu'à la liberté d'expression ou à la prévention de la torture. Donc, il faut faire avancer tout le volet des droits humains, y compris les droits économiques et sociaux, avec autant de passion et d'engagement.
Voilà, deux autres questions. Là, c'est 30 secondes, 30 secondes. Kando, président du Club des auditeurs de Badolité dans la forêt de l'Équateur. Pourquoi les Nations Unies n'étendent pas leurs actions jusque dans les prisons congolaises où plusieurs personnes sont détenues illégalement et sont privées de leurs droits? 30 secondes.
Oui, j'ai visité cet après-midi la prison de Kinshasa où je suis persuadée qu'une proportion importante des détenus sont détenus illégalement. Je suis absolument convaincue que la durée de la détention préventive n'est pas conforme à la loi et j'ai bien l'intention de dire aux autorités mes préoccupations. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner au ministre de la Justice et à certains de ses collègues.
En notant que certains de vos collaborateurs ne peuvent même pas accéder aux cachots de services spéciaux. Une dernière question, Victor de Kisangani, en province orientale. Je veux savoir si le mandat d'arrêt contre Kika Karim est toujours valide. Bon, là, je crois que c'est une question. Un dernier mot, Madame Louise Arbour. Vous avez un dernier mot?
Ouais, mon dernier mot, c'est que je suis très encouragée au cours de ma visite par la mobilisation, tant au niveau des autorités, mais surtout de la société civile pour la lutte contre l'impunité. Et je ne peux qu'encourager les Congolais à poursuivre leur combat.
Merci à vous, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Louise Arbour. Merci aussi à Kenny Kouté pour la réalisation de ce dialogue entre Congolais. Sans oublier Patrick Kassonga qui est à la technique. Bonsoir à tous et bonne suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.